Radio Kapi.
Oh, Kapi. Pascal Masserica pour le journal.
Les titres de l'actualité, les FARDC contrôlent en ce moment la cité de Kibumba au Nord Kivu. Par contre, la situation reste tendue à Bambo après des violents combats survenus ce jeudi matin entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux d'une part et les FARDC d'autre part. Inhumation hier après-midi dans la douleur de 27 victimes de l'attaque menée sur la cité d'Oicha par des rebelles ougandais de l'EDF. L'émotion des familles durement touchées par ce massacre était à la hausse. Reportage à suivre dans ce journal. Notre invité, c'est Ngoma Binda. Ce professeur d'université participe au colloque international organisé à Lubumbashi par l'Association des études africaines. Au menu, la valorisation des langues locales, une question éminemment politique qui requiert du courage. Madame, messieurs, bonsoir. Accalmie précaire cet après-midi à Kibumba, territoire de Nyiragongo et à Bambo, dans celui de Rutshuru au Nord Kivu, après des violents combats survenus ce jeudi matin entre les rebelles du M23 RDF et des groupes armés locaux d'une part et les FARDC d'autre part. Les FARDC contrôlent en ce moment la localité de Kibumba. Par contre, la situation est tendue dans la zone de Bambo. À Goma, le récit de Bernard Nyangi.
Depuis 11 heures locales, l'intensité des combats a sensiblement baissé ce jeudi dans ces zones de combat. Selon plusieurs sources locales, l'armée congolaise contrôle suffisamment la situation dans les localités de Kanyamaoro, Bumba, Kibati et Shoni, en territoire de Nyiragongo, où les bombardements ont momentanément cessé. L'armée a donc réussi à déjouer la tentative d'infiltration des rebelles M23 du côté de Kibaya pour déboucher vers Mutao. Toutefois, la localité de Kilimanyoka s'est vidée de ses habitants, disent nos sources. Du côté de la chefferie de Buito, en revanche, la situation se dégrade encore plus. Plusieurs sources confirment l'occupation de Bambo par les rebelles du 23 à l'issue des affrontements toute la matinée contre les groupes armés locaux. Cette agglomération ainsi que le village de Kishiche se vident à présent de leurs habitants qui fuient vers Kibirizi et Ukanyabayonga. Nos sources à Kibirizi indiquent que quelques habitants de cette agglomération aussi vident les lieux à la suite d'une panique qui s'empare d'eux au vu de l'avancée des rebelles. Deux civils ont été tués et un autre blessé à Bambo, précisent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore le commandant de la force régionale de l'EAC appelle pour la première fois les FARDC et les rebelles du M23 RDF au cessez-le-feu. Appel lancé dans un communiqué publié hier après la mort mardi d'un soldat du contingent kenyan. Explication de Sifa Maguru.
Ce communiqué est rendu public ce mercredi 25 octobre pendant que cette force est rapatriée à Nairobi au Kenya les corps de l'un de ses membres, John Ndao, du contingent kenyan. Celui-ci a été tué par un projectile mardi pendant les combats entre l'armée congolaise et la coalition de groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans le groupement de Buumba en territoire de Nyiragongo. Dans ce communiqué, la force régionale parle pour la première fois de la violation de l'accord de cessez les feux entre les FARDC et les rebelles du M23 est dictée par les chefs d'État membres de l'EAC. Une base de cette force située à Kanyamaoro dans la zone de Kibumba a été prise dans le feu croisé occasionnant des dégâts humains dans ses rangs. Rappelons que mardi, à travers son porte-parole provincial, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, l'armée a reconnu intervenir désormais dans ce combat qui oppose depuis le 1er octobre les rebelles du M23 à une coalition de groupes armées locaux. Les FARDC et les rebelles du M23 se rejettent mutuellement cependant la responsabilité de ces bombardements de la base de l'EAC à Buumba. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Inhumation hier dans la douleur et la consternation des 27 victimes de l'attaque menée à Oicha par les rebelles ougandais de l'EDF. L'émotion des familles durement touchées par ce massacre était à la hausse. Son reportage à Beni de Martial Papimukeba.
Forte émotion ce mercredi, mais aussi beaucoup de colère parmi les membres de famille des victimes de l'attaque lundi qui a coûté la vie à 27 personnes dans la région de Oicha. Certains corps ont été amenés à Mbao, d'autres à Butembo où ils ont été inhumés. Cette femme qui a perdu trois membres de sa famille dans cette attaque se rappellent de ce qui s'était passé.
Il vivait à Kiabusiku, à côté de là où se trouve une position des FARDC. Les assaillants avaient commencé par là. Ils avaient demandé aux gens d'ouvrir les maisons. Ils ont tué trois enfants.
Lundi soir, 27 civils ont été tués par des présumés rebelles des ADF dans les quartiers Masosido-Wicha, considérés comme l'un des périmètres les plus sécurisés de cette commune rurale. Dans ces quartiers se trouvent les bureaux de l'administrateur du territoire de Beni, l'état-major du commissariat de la police et une position des FARDC. Non loin de là, à Bouloloma et à 3 km du lieu de l'attaque, se trouve également une autre position de l'armée. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu où le programme alimentaire mondial PAM annonce la suspension de ses distributions dans le territoire de Nyiragongo suite au combat entre les groupes armés locaux non étatiques dans la région proche de la ville de Goma. Le président des déplacés redoute que cette suspension n'aggrave leurs conditions de vie précaires déjà à Kanyaruchinya. C'est ce que nous explique à Goma Sifa Maguru.
Alors qu'il était en pleine distribution de l'aide alimentaire dans les sites de Kanyaruchinya, où 117 000 personnes étaient attendues, cette agence humanitaire s'est dit obligée de suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. C'est à la suite des affrontements qui ont repris depuis quelques jours dans cette région de Nyiragongo, une dizaine de kilomètres de Goma. Le PAM indique avoir atteint la moitié des personnes ciblées dans les camps de Kanyaruchinya et Munigi qui hébergent depuis des années des personnes qui ont fui les conflits dans les Masisi et les Rutshuru. D'après Théo Moussekoura, président des déplacés, la situation humanitaire s'est considérablement dégradée à cause de la saison des pluies en cours. Des milliers de déplacés sont exposés aux intempéries et aux maladies à la suite de fortes pluies qui détruisent leurs abris et provoquent d'autres dégâts matériels. À cela s'ajoute l'insécurité permanente et les affrontements qui ont occasionné plusieurs décès parmi les déplacés et obligé les autres à errer ça et là. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, des avancées significatives sont enregistrées en Ituri dans la formation des policiers pour les rendre plus professionnels. Ce constat a été fait par l'inspecteur général adjoint de la police nationale en mission à Bunia. Parmi les défis à relever, le commissaire divisionnaire Roger Singa parle des effectifs réduits et de certains éléments de la police nationale qui tracassent la population. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Nous avons enregistré beaucoup d'avancées, surtout en termes de formation, en termes d'acquisition de bâtiments et en termes de changement de mentalité dans le chef des policiers. Nous l'avons noté de la part de la société civile que le comportement du policier a subi un changement positif. Bien que beaucoup de choses sont encore à faire, nous allons continuer à corriger là où il faut corriger. Le changement n'a jamais été facile. Il y a toujours le phénomène de la résistance au changement. Dans la bergerie, il y a des brebis galeuses, ça ne manque jamais. Et donc, nous sommes en train de travailler au niveau de la formation pour que la mentalité du policier puisse définitivement changer. Ça, c'est une première chose. L'autre problème que nous avons rencontré ici, c'est un problème du déploiement des effectifs de la police. On dit que le déploiement est insuffisant et c'est un problème réel que nous reconnaissons. Un processus de recrutement est déjà enclenché et que bientôt, on va procéder au recrutement, à la formation, de manière à pouvoir disposer de beaucoup plus d'effectifs et toucher les milieux qui ne sont pas encore couverts par la police.
Revenons ici à Kinshasa où des habitants dénoncent la hausse des prix du transport. Certains conducteurs l'expliquent par la hausse des prix du carburant dans la capitale congolaise. Sur le terrain, d'autres conducteurs appliquent le tarif normal. Explication à Kitambo de Babel Mpongo Masimango.
Sur terrain, on trouve les deux, ceux qui continuent d'appliquer le tarif habituel.
Ici, jusqu'à Sanef, c'est 1000 francs. Oui, d'habitude, c'est toujours comme ça.
Et ceux qui ont haussé le prix de façon unilatérale, ces derniers affirment le faire pour ne pas travailler à perte.
Hier, la course coûtait 1000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est à 1500 francs congolais. C'est pour que je gagne aussi quelque chose à manger.
Certains clients trouvés à bord de véhicules disent ne pas avoir de choix. Ils paient la course au nouveau tarif.
Généralement, on paye 1000 francs. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est 1500. Je n'ai pas de choix parce que je dois partir. Il ne faut pas que je sois en retard, quoi.
Certains autres, comme cette dame, debout au croisement des avenues Massamba et Oyua, se plaignent de ne pas disposer de la somme demandée.
Le chauffeur nous a dit brusquement que le transport est devenu 1500. Mais maintenant nous n'avons pas les 1500 là subitement comme ça, on va faire comment? On fait les pieds ou on va faire comment? Il faut qu'on donne le communiqué la nuit que demain le transport sera autant. On va se préparer comme ça, en tout cas c'est faire souffrir la population, c'est pas bon. Je viens de bosser, les chauffeurs qui vont pouvoir nous transporter, nous sommes allés à 2500, on peut monter, mais 3000 là on n'en a pas.
Sachez que dans certains coins de la ville, la course est passée à 2000, voire plus selon les trajets.
Merci Babel Mpongo Massimango pour ces précisions. Allons maintenant dans la province du Kwilu, 800 pupitres ont été remis mercredi après-midi à près de 25 écoles primaires de la ville de Bandundu par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Objectif affiché, soutenir la gratuité de l'enseignement fondamental selon Ignace Ndona, expert au cabinet du chef de l'État. Un ouf de soulagement pour les élèves de cette ville qui suivaient auparavant les cours à même les sols. Il ajoute que 100 chaises écritoires ont été également remises à l'université de Bandundu en dehors de la réhabilitation de la salle d'urgence de l'hôpital général de la zone. Il s'est confié à Irene Mboma Luzolo.
Le projet était intitulé projet 1000 bancs. La vision qui accompagne une autre vision, parce que dans une vision, il peut y avoir une autre vision, c'est pas une école sans bancs. Et dans cette cagnotte, nous avons servi respectivement 100 écritoires à l'université de Bandundu et nous avons utiliser aussi une petite cagnotte pour réfectionner la salle d'urgence de l'hôpital général de Bandundu. Dans les derniers décomptes, on était à un peu plus de 800 bancs sans compter les écritoires. Mais si on compte les écritoires, autour de 900. Mais la remise, comme je vous l'ai dit, est un don du président de la République. Donc c'est pour soutenir la vision de la gratuité de l'enseignement du chef de l'État. Quand nous avons fait la ronde pour identifier les problèmes, il y a des enfants qui s'assoient par terre. Il y a aussi le problème de surnombre. Et comme vous savez, il y a une relation directe entre le confort et l'attention. Donc les enfants qui sont assis sur des bancs confortables, cela leur permet de soutenir leur attention et éventuellement de pouvoir améliorer leur taux de réussite.
Actualité internationale.
Fin ce jeudi après-midi à Dakar de la première édition du Forum international entre l'Union africaine et l'Union européenne sur le dialogue spatial. L'occasion pour le Sénégal d'afficher publiquement ses attentes dans ce secteur à l'image d'autres pays et institutions du continent africain. L'option d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger n'a-t-elle pas été abandonnée? Plusieurs pays qui avaient annoncé mettre des troupes à la disposition de la CEDEAO ont démobilisé leurs troupes. Et puis, les casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ont commencé à partir un peu plus tôt que prévu de la région de Kidal dans le nord-est du pays. Ils protestent contre les refus des autorités maliennes de transition d'accorder des autorisations de vol pour rallier le Tchad.
L'invité.
Notre invité, c'est Ngoma Binda. Ce professeur d'université participe en ce moment au colloque international organisé à Lubumbashi par l'Association des études africaines. Au menu, la valorisation des langues locales, une question éminemment politique qui requiert du courage. Il est interviewé à Lubumbashi par Jean Ganduka Bongo.
Professeur Ngoma Binda, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les Africains peuvent arriver un jour à s'approprier leur propre langue pour véhiculer leur propre pensée?
Oui, ils peuvent arriver. Ça prendra du temps. Il faut qu'il y ait pour cela une grande volonté politique. Vous savez, nous avons eu ici dans notre pays la politique de l'authenticité. Beaucoup l'ont malheureusement rejeté parmi les intellectuels, notamment les prêtres. C'est une erreur grave. C'est cette politique-là qui aurait pu nous amener à nous approprier nos langues. Ici, même à Lubumbashi, on avait les scientifiques, les linguistes qui ont fait un colloque important sur la possibilité d'avoir des langues africaines valorisées, nos quatre langues nationales. Mais malheureusement, avec plus tard la mort de Mobutu et aussi la menace qui recevait de la part des tenants du français, il a dû peu à peu relâcher. Donc c'est une question éminemment politique qui demande de la volonté politique pour nous Africains, mais aussi vis-à-vis de la France qui est le propriétaire de cette langue française que nous utilisons, c'est un enjeu important. La France considère que le Congo est le plus grand pays francophone et ça doit demeurer francophone. Donc nous sommes dans une situation où il y a manque manque de volonté de la part de nous autres et où il y a pression de la part des autres.
Mais ce n'est pas seulement la RDC, ce sont tous les pays africains qui connaissent le même problème.
Tous les pays africains, je me rappelle que le Madagascar avait à un certain moment initié la politique de la malgachisation, mais combattu énormément par les Français. Et donc, ils sont revenus finalement. Et ailleurs, on ne pouvait même pas parler du Sénégal, parce que déjà le Sénégal, même si Léopold Sédar Senghor parlait de la négritude, mais il ne voulait pas non plus valoriser les langues africaines, parce qu'il était sous la pression des colonisateurs.
Quelle serait en fait la panacée?
Le remède, c'est initier cette politique de pouvoir nous prendre en charge sur tous les plans, même sur le plan linguistique. Ça peut se faire si l'homme politique a cette volonté-là de pouvoir nous amener vers l'utilisation de nos quatre langues à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'école supérieure et à l'université. En Tanzanie, on le fait. On apprend en swahili. Pour nous qui sommes des universitaires, si nous voulons évoluer dans le monde. Mais carrément, nous changeons du français vers l'anglais parce que c'est l'anglais qui constitue pour le moment la lingua franca des intellectuels, des scientifiques. Pourquoi nous ne pouvons pas décider que l'université désormais doit se faire en anglais, en programmant par étapes et d'ici 10 ans, 20 ans, on peut basculer vers l'anglais.
Mais il y a aussi les pays anglophones qui ont le même problème. Ils auraient aimé que leur langue locale soit valorisée.
Effectivement, j'aurais bien voulu, mais en même temps, pour les intellectuels, ils veulent se faire reconnaître internationalement. Pour ce faire, ils doivent faire leurs publications, enseigner, participer à des colloques en langue anglaise. C'est là le piège. Malheureusement, c'est eux aussi, à travers leurs politiciens, qui doivent opter pour l'utilisation des langues africaines. Mais le principal remède, c'est la volonté politique et le courage.
Pensez-vous qu'une thèse qui est rédigée dans nos langues locales soit facile à être soutenue et appuyée par des promoteurs étrangers?
Des promoteurs étrangers qui connaissent nos langues africaines, oui, ils peuvent le faire. J'ai parlé tout à l'heure avec une dame qui connaît bien le swahili, mais elle est du Mexique. Elle travaille en France. Elle parle l'anglais, elle parle le swahili aussi. Donc, une femme comme ça peut être non seulement directrice d'une thèse de doctorat, mais également peut participer à plusieurs choses, à la promotion de cette langue. Thèse en langue africaine, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais, vous savez, chez nous, à l'Université catholique du Congo, il y avait des professeurs qui faisaient faire leur mémoire de licence en langue tetela et en langue lingala. Nous avons défendu des mémoires de licence en langue africaine. Des traductions, il y a eu des livres écrits en français vers le tetela, vers le lingala. Nous en avons fait. Mais là, c'était sous l'impulsion de Mobutu, c'est-à-dire l'inspiration de l'authenticité. C'est celle-là qui a amener les facultés catholiques de Kinshasa à pouvoir initier des traductions et des défenses des mémoires en langue africaine. Quand il n'y a pas une impulsion politique, tout taigne et même meurt.
Professeur Ngomabina, je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher ami.
C'était l'invité de Radio Okapi, Ngomabinda. Ce professeur d'université participe au colloque international organisé en ce moment à Lubumbashi par l'Association des études africaines. Il a été interviewé par Jean Ganduka Bongo. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noëlla Luzitu Kabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pele Kipelamondo.